Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Gros plan dans votre journal sur la situation, notamment humanitaire, dans les territoires palestiniens. Plusieurs ONG ont récemment publié une tribune dans le quotidien Le Monde. Elles déplorent la récente augmentation de la violence liée à l'occupation et à la colonisation. Parmi les signataires, la Ligue des droits de l'homme. Nous écouterons son président, Maître Patrick Baudouin. La mobilisation contre la réforme des retraites en France. Nouvelle journée de mobilisation intersyndicale, jeudi 6 avril prochain. C'est l'une des conséquences du séisme dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. En février dernier, plus de 800 000 travailleurs ont perdu leurs revenus. La Tunisie est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Les Aigles de Carthage ont validé leur billet grâce à une victoire 1-0 en Libye. Regard sur une initiative prise par la ville de Saint-Ouen, un congé menstruel pour les agentes de la ville. Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, sera l'un de nos invités. Dans les territoires palestiniens, le financement européen de l'aide humanitaire doit s'accompagner de la fin de l'impunité du gouvernement israélien. Une demande publiée dans une tribune dans le quotidien Le Monde, tribune rédigée par des responsables d'ONG, dont Médecins du Monde et la Ligue des droits de l'homme. Son président, Maître Patrick Baudouin, également président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains.
La situation dans les territoires palestiniens est une situation qui n'a jamais été aussi critique hein, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement de M. Netanyahou, qui est ultra extrême droite et qui n'hésite pas à revendiquer la colonisation à outrance, une occupation accélérée et la négation total des droits des Palestiniens. Et ce qui s'est passé en particulier à Huara, où on a vu cette localité palestinienne attaquée par les colons dans ce qui a pu être qualifié de pogrom, montre à quel point la situation dégénère au détriment des Palestiniens. Et puis, on voit très bien que l'objectif c'est d'empêcher évidemment la création de deux États, ça va de soi, d'ailleurs c'est revendiqué, mais non seulement cela, c'est de s'approprier tous les territoires, y compris en sous-entendu, en chassant les Palestiniens de leurs terres, si on peut y parvenir, ce qui sera tout de même, heureusement, je pense, difficile, car il faut espérer que la communauté internationale interviennent. Il faut espérer aussi qu'au sein même de l'État d'Israël, et on le voit en ce moment, même sur un autre sujet qui est celui de la justice, mais tout de même, il y ait un mouvement de contestation très fort ce nouveau gouvernement Netanyahou.
Vous écrivez que l'occupation et sa violence institutionnalisée, selon vos mots, ont conduit à une crise humanitaire de grande ampleur aujourd'hui.
Oui, parce que le résultat est que les droits des Palestiniens sont complètement déniés sur le plan des libertés publiques, mais aussi sur le plan de ce qu'on peut appeler les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire des conditions de vie en termes de logement, alimentaire, de soins, qui sont des conditions absolument déplorables et de plus en plus déplorables. Et avec une aide importante qui, théoriquement, est apportée par les États européens, mais qui, d'une part, est insuffisante, d'autre part, ne parvient pas toujours à ses destinataires, ne parvient pas toujours à être utilisée. Donc, là aussi, la situation est dramatique. C'est une paupérisation croissante. Il est urgent de venir en aide à la population palestinienne.
Car vous craignez une nette augmentation des besoins humanitaires cette année, en 2023.
Oui, bien sûr. En plus, on voit les démolitions illégales. Donc, quand les personnes sont chassées de leur logement, se retrouvent sans domicile, Tout cela contribue à la paupérisation des Palestiniens, outre une crise qui existe aussi en Israël de manière plus générale, mais dont ils sont évidemment les premières victimes.
Et vous estimez que le financement européen de l'aide humanitaire doit s'accompagner, dites-vous, de la fin de l'impunité du gouvernement israélien ?
Oui. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut absolument qu'enfin la communauté internationale, mais plus spécialement les États européens, prennent conscience de la gravité de la situation, des violations des droits, et que l'aide qui est apportée soit en quelque sorte conditionnée à une cessation de ces violations massives. De la même manière, les produits qui proviennent des colonies ne doivent pas être accueillis, et ça passe tout de même. Donc on ne doit pas financer de cette manière, d'un point de vue économique, la poursuite de ce que beaucoup considèrent comme une situation d'apartheid. Il faut vraiment arrêter cet engrenage de la colonisation et continuer d'exiger la fin de l'occupation. Et même si on sait qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui est difficile et peut-être un peu lointain pour l'atteindre, je crois qu'il faut continuer à demander qu'il y ait deux États, un État israélien, un État palestinien qui vivent. On peut toujours avoir cet avenir devant nous, et qui vivent en harmonie avec la reconnaissance des droits pour les uns et les autres. Alors qu'aujourd'hui, on voit très bien que du côté d'Israël, on a les droits, mais que du côté des Palestiniens, on n'en a aucun. Et cela, c'est absolument inadmissible, intolérable et de plus en plus grave et préoccupant.
Vous évoquiez ce qui s'est produit le 26 février dernier, quand la localité palestinienne d'Ouara a été attaquée par des dizaines de colons israéliens après le meurtre de deux colons. Estimez-vous que la question de la colonisation face à cette dégradation de la situation sécuritaire, notamment depuis le début de cette année, est suffisamment mise en lumière ?
Non, certainement pas. Je trouve qu'il y a un silence assourdissant par rapport à la gravité de cette situation, et une poursuite d'impunité surtout, puisque ce sont des agissements, si vous évoquez par exemple ce qui s'est passé à Ouara, ce sont des agissements qui relèvent de qualifications pénales extrêmement graves, et plus largement, quid des crimes de guerre qui sont pourtant reconnus, qui ont été commis par les forces israéliennes et pour lesquels il n'y a pas de justice en Israël, alors que pourtant il existe des tribunaux, mais qui sont quand même très sélectifs dans les poursuites, et que la Cour pénale internationale qui est saisie tarde beaucoup à avancer pour pouvoir mener les enquêtes et les poursuites sur ce qui s'est passé à Gaza et dans les territoires occupés. On voit pourtant que quand il s'agit de l'Ukraine, la justice est beaucoup plus efficiente, se manifeste plus rapidement. On a décerné assez vite, décerné, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré à l'encontre du président Poutine pour les déportations d'enfants. Pourquoi, vis-à-vis de la situation israélienne, alors que la Cour pénale internationale s'est estimée compétente sur une saisine de l'autorité palestinienne, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas ? Et du côté européen, je pense qu'on doit aussi faire pression pour que, précisément, il y ait une justice et une fin d'impunité face à des actes aussi graves. La colonisation, l'occupation, cela rentre dans des définitions de crimes relevant de la Cour pénale internationale. Et donc tout cela n'est plus acceptable. Il faut vraiment un véritable réveil. On voit que, par exemple, aux États-Unis, dans la communauté juive américaine, il y a une prise de conscience. Elle est moins vive dans les pays européens, même si elle commence à se manifester. Et je dirais que les plus lucides pour condamner ce qui se passe en Israël sont souvent des Israéliens eux-mêmes ou des Juifs qui vivent à l'étranger. Ils sont malheureusement minoritaires, mais des mouvements La Paix Maintenant, où il faudrait les relancer, aussi les aider pour que, à l'intérieur même d'Israël, les choses bougent et qu'on arrive à des gouvernements qui soient d'une autre nature que celui en place, plus respectueux des droits de tous et toutes.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains. C'est l'une des conséquences du séisme dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le 6 février dernier, plus de 650 000 travailleurs turcs ont perdu leurs revenus. C'est ce qu'indique l'Organisation internationale du travail, qui souligne que près de 180 000 personnes ont aussi perdu leur emploi en Syrie. L'OIT appelle à un soutien urgent pour éviter davantage de pauvreté, d'emploi de mauvaise qualité et de travail des enfants. La semaine dernière, les donateurs internationaux se sont engagés lors d'une conférence à Bruxelles à apporter 7 milliards d'euros d'aide aux populations de Turquie et de Syrie affectées par ce séisme, un tremblement de terre qui a fait plus de 56 000 morts. Deux sœurs parties dans leur adolescence en Syrie ont été rapatriées en Norvège avec leurs trois enfants. Oslo évoque une décision motivée par les conditions de vie extrêmement mauvaises dans le camp où ces personnes étaient détenues. D'origine somalienne, ces deux sœurs avaient clandestinement quitté la Norvège fin 2013 à l'âge de 16 et 19 ans pour participer à la lutte contre le régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui âgées de 25 et 29 ans, elles ont respectivement eu deux et une fille née d'union avec des terroristes du groupe État islamique. Une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale est programmée le jeudi 6 avril prochain. En France, mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats sont attendus en début de semaine prochaine à Matignon où ils seront reçus par la Première ministre. Quelques 740 000 manifestants ont défilé hier en France, selon la police, dont 93 000 à Paris pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La proposition de loi dite anti-squat de retour à l'Assemblée nationale. Le texte contre l'occupation illicite des logements est examiné aujourd'hui en deuxième lecture. Il rend les locataires expulsés passibles d'une amende de 7 500 euros. Un large collectif d'associations et de syndicats demande le retrait de ce texte. C'est une première en France et c'est à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. La municipalité a lancé l'expérimentation d'un congé menstruel pour ses agentes souffrant de règles douloureuses et d'endométriose. L'ensemble des agentes auront la possibilité de poser 2 jours d'arrêt par mois sans retenue de salaire. Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran.
Cette décision est le fruit de plusieurs discussions que nous avions eues avec des associations féministes, des agentes de Saint-Ouen. Et on a réalisé que les femmes, qui représentent 50% de la population, la moitié d'entre elles étaient victimes de règles douloureuses ou de règles incapacitantes. Et 10% des femmes qui sont en âge de procréer subissaient et vivaient avec de l'endométriose, une maladie malheureusement peu connue, voire reconnue. C'est la raison pour laquelle, dans la continuité de ce qui a été fait en Espagne, à Taïwan et au Japon, on a décidé de mettre en place ce congé menstruel qui se traduit par des autorisations spéciales d'absence, qui se traduit par un réaménagement du temps de travail, un réaménagement des stations de travail et un accès au télétravail plus souple. À Saint-Ouen, sur 2000 agents, on a 1200 femmes, ce qui laisse à croire que 500-600 femmes seront concernées par cette mesure.
Vous faites part d'autorisations spéciales d'absence. Concrètement, Absolument. Comment cela se traduit? Est-ce que les agentes devront aller chez le médecin ou non?
Donc l'avantage de cette mesure, elle est triple. La première, c'est qu'effectivement, on a une dédiabolisation et une déculpabilisation des femmes lorsqu'elles sont victimes de règles douloureuses ou de règles incapacitantes, ce qu'on appelle une qualité de vie au travail. Elles pourront exercer automatiquement leur autorisation spéciale d'absence chaque mois, à hauteur de 2 jours par mois. Et surtout, contrairement à ce qui a été fait traditionnellement, où chaque femme victime de règles douloureuses allait voir le médecin et par conséquent subissait le jour de carence, 80 euros par mois. Là, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus l'obligation d'aller voir le médecin chaque mois, ce qui était impactant en termes de jours de carence. Donc ça, c'est la deuxième avantage. Le troisième avantage, donc le premier, c'est la qualité de vie au travail. Le deuxième, c'est l'aspect économique. Le troisième, c'est l'aspect socio-culturel et prise en considération de la souffrance mensuelle d'une partie des femmes qui travaillaient. On a vraiment, on l'a vu hein, depuis qu'on l'a annoncé, une libération de la parole.
C'est une mesure sociétale.
C'est une mesure sociétale, c'est une mesure économique, c'est une mesure aussi médicale, parce que la prochaine étape, et on l'a vu à Saint-Ouen, c'est de signer une convention avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour que justement une maladie comme l'endométriose soit suivie dans le cadre de consultations gynécologiques spécifiques. Quand je dis spécifiques, spécialisées dans l'endométriose. Et c'est aussi une mesure qui doit susciter un débat national autour de la recherche sur l'endométriose. Donc il y a effectivement du sociétal, mais c'est aussi psychosocioculturel, la prise en considération du problème des règles douloureuses et de l'endométriose qui était tabou, voire méconnu. Et c'est aussi un sujet politique, parce qu'on parle d'égalité femmes-hommes, d'où la nécessité de mettre en place une loi pour que toutes les villes, tous les maires de France, tous les présidents de départements, tous les présidents et présidentes de conseils régionaux puissent mettre en place ce dispositif en leur assurant des moyens financiers à la hauteur de leur ambition.
C'est une mesure qui a un coût. Qui le prend en charge ?
Aujourd'hui, ce coût est 100% pris en charge par les collectivités, par la mairie de Saint-Ouen, d'où la nécessité, d'où l'extrême nécessité, l'extrême urgence de sceller le cadre juridique pour protéger les villes qui n'auront pas forcément les moyens financiers. D'où la nécessité de mettre en place une loi. Le rôle des syndicats, des forces vives, je pense à la CFDT, à la CGT qui sont en plein congrès, leur rôle et leur influence sont nécessaires, et leur savoir-faire et leur expertise sont nécessaires pour qu'il y ait ce socle juridique clair.
Vous l'avez souligné, hein, c'est une mesure, cette mesure qui est prise aujourd'hui dans la ville que vous administrez, Saint-Ouen, qui va être prise dans de nombreuses autres villes. C'est bien entendu pour vous un élément de satisfaction.
Satisfaction, à partir du moment où on a une avancée sociétale, sociale, économique, qui va dans le sens de l'égalité femmes-hommes et qui va dans le sens de notre idéal républicain, le militant que je suis ne peut être que satisfait.
Et vous contribuez à la mise à l'arrêt d'un tabou également, et ça c'est important.
Absolument, c'est le mot, je dis souvent, je cite Léo Ferré qui disait dans préface, à menstruel on préfère périodique, et bien nous à périodique on préfère règle, le mot règle était tabou. Le nombre de femmes qui souffrent en silence, voire qui subissaient un déni de souffrance, on a levé un tabou. Et on a surtout pris en considération la souffrance de nombreuses femmes en se disant « n'ayez plus peur, n'ayez plus peur ». Aujourd'hui, lorsqu'une fois par mois, certaines se tordaient de douleur ou vous souffriez, vous n'avez plus à culpabiliser d'être en télétravail ou de rester chez vous, à vous reposer et à attendre que la douleur passe ou à vous soigner. C'est normal. Ça fait partie de l'idéal progressiste de notre République.
Et on l'a entendu, vous souhaitez une généralisation de cette
absolument
mesure dans l'ensemble des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
Absolument, absolument. Vous avez parfaitement bien résumé le sujet. Il y a le public, François-Xavier, mais il y a également le privé. C'est la raison pour laquelle cette loi qui s'inscrit dans le Code du travail devrait s'appliquer aussi bien aux entités publiques que privées.
Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran. La Tunisie est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Les Aigles de Carthage ont validé leur billet grâce à une victoire 1-0 en Libye. La Tunisie est donc assurée de terminer dans les deux premiers du groupe J des éliminatoires de la CAN avec ses 10 points. Le Burkina Faso s'est lui aussi qualifié malgré un nul au Togo, 1-1. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 12h18, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash en langue française. À 18h pour votre journal, vous retrouverez Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.